Livre 9, chapitre 2, contenant une aventure véritablement très surprenante qui arriva à M. Jones dans sa promenade avec l'homme de la colline. L'aurore commençait à ouvrir les portes du soleil, c'est-à-dire en français, le jour commençait à paraître quand Jones sortit accompagné du vieillard et gravit avec lui la colline du Mazar. Ils n'en eurent pas plus tôt atteint le sommet que la vue la plus imposante s'offrit de tous côtés à leurs regards. Nous voudrions l'offrir également à ceux du lecteur, mais nous ne le ferons pas pour deux raisons. La première est que nous désespérons de faire admirer notre description à ceux qui ont joui de ce beau coup d'œil. La seconde est que nous doutons très fort que ceux qui ne l'ont pas vu voulussent nous croire. Jones resta quelque temps dans la même posture, les yeux dirigés vers le sud de la colline. Le vieillard, s'en apercevant, lui demanda ce qu'il regardait avec tant d'attention. « Hélas, monsieur, répondit-il avec un soupir, je cherchais à découvrir la route qui m'a conduit ici. Bonté divine, que Gloucester est loin de nous! Quelle vaste étendue de terrain il doit y avoir entre moi et le lieu que j'habite ordinairement !»« Oui, oui, jeune homme, s'écria le vieillard, et si j'en crois vos soupirs, il y a encore plus de distance entre vous et ce que vous aimez encore mieux que le lieu que vous habitez ordinairement. Je m'aperçois que l'objet de votre contemplation n'est pas à la portée de votre vue, et j'imagine cependant que vous avez du plaisir à regarder de ce côté. » Jones lui répondit en souriant, « Je vois, mon vieil ami, que vous n'avez pas oublié les sensations de votre jeunesse. Eh bien oui, je vous confesse que vous avez deviné juste. » Ils dirigèrent alors leurs pas vers la partie de la colline qui regarde le nord-ouest et domine une forêt très étendue. Ils n'y furent pas plus tôt arrivés qu'ils entendirent à quelque distance des cris de femmes s'élevant du bois qui était au-dessous d'eux et que l'écho rendait encore plus horrible. Jones écouta un moment et, sans dire un mot à son compagnon, car il semblait qu'il n'y avait pas de temps à perdre, il courut, ou plutôt se glissa, au bas de la colline et, sans la moindre crainte, sans la plus légère inquiétude pour sa propre sûreté, alla droit à la partie du bois d'où le bruit s'était fait entendre. À peine avait-il fait quelques pas qu'il vit, ô spectacle horrible, une femme à moitié nue entre les mains d'un scélérat qui lui avait passé sa jarretière autour du col et faisait tous ses efforts pour la suspendre à un arbre. Jones ne perdit pas le temps à faire des questions. Il tomba au même instant sur le scélérat et fit un si bon usage de son fidèle bâton de chêne qu'il l'étendit de tout son long sur la terre avant qu'il pût se défendre, et même presque avant qu'il sût qu'on l'attaquait. Et il ne cessa de le frapper que lorsque la femme elle-même l'eut conjuré de s'arrêter en lui disant qu'elle se croyait suffisamment vengée. La pauvre malheureuse se jeta alors aux genoux de Jones et le remercia mille et mille fois de sa délivrance. Il la releva sur le champ et lui témoigna combien il était charmé qu'un accident extraordinaire l'eût mis à portée de venir à son secours dans un lieu où il était si peu probable qu'elle en trouvât aucun, ajoutant que le ciel semblait l'avoir désigné pour être l'heureux instrument de sa bonté protectrice. « C'est trop peu dire, répondit-elle. Vous êtes sans doute quelque envoyé du ciel. Vous paraissez à mes yeux plutôt un ange qu'un homme. » Il avait en effet une figure charmante, et si un très bel extérieur, l'assemblage des traits les plus agréables, paré des charmes de la jeunesse, de la santé, de la force, de la fraîcheur, du courage et de la bonté, peuvent faire ressembler un homme à un ange, nul n'en offrait une ressemblance plus parfaite que Jones. La captive nouvellement délivrée n'offrait rien de semblable à beaucoup près. Elle ne paraissait pas très jeune et n'était rien moins que jolie. Mais ses vêtements se trouvant déchirés par en haut, sa gorge, qui était très belle et extrêmement blanche, attira les regards de son libérateur. Ils restèrent tous deux immobiles et en silence pendant quelques moments, qu'ils employèrent à se regarder, jusqu'à ce que le scélérat qui était étendu sur la terre commença à faire quelques mouvements. Jones prit alors la jarretière qui était destinée à un autre usage et lui lia les mains derrière le dos. Ayant pris ce moment pour l'envisager, il reconnut à sa grande surprise et peut-être à sa grande satisfaction que ce scélérat n'était autre que l'enseigne Northerton. Celui-ci, de son côté, n'avait pas oublié son ancien antagoniste, qu'il reconnut au moment qu'il revint à lui. Sa surprise fut égale à celle de Jones, mais je conçois que son plaisir fut moins vif. Jones aida Northerton à se relever, et le regardant fixement, « Je m'imagine, monsieur, lui dit-il, que vous ne vous attendiez pas à me rencontrer encore dans ce monde, et je vous avoue que je m'attendais aussi peu à vous trouver ici. Cependant, vous voyez que la fortune nous a réunis encore une fois, et m'a donné, même à mon insu, satisfaction de l'affront que j'avais reçu de vous. » C'est en effet se conduire en homme d'honneur, répondit Northerton, de tirer satisfaction d'un homme en le frappant par derrière. Je suis hors d'état, moi, de vous donner satisfaction ici, attendu que je n'ai pas d'épée. Mais si vous avez le courage de vous conduire comme un gentilhomme, allons ensemble dans un lieu où je puisse m'en procurer une, et je me conduirai, moi, comme un homme d'honneur. Il convient bien à un scélérat tel que vous, s'écria Jones, de souiller le titre d'homme d'honneur en vous l'arrogeant. Mais je ne perdrai pas mon temps à discourir avec vous. La justice vous demande aujourd'hui satisfaction, et elle l'obtiendra. » Se tournant alors vers la femme, il lui demanda si elle était près de chez elle, ou, dans le cas contraire, si elle connaissait quelqu'un dans le voisinage, chez qui elle put se procurer quelques vêtements décents pour se rendre de là chez un juge de paix. Elle répondit qu'elle était absolument étrangère dans ce pays. Jones lui dit alors, après un moment de réflexion, qu'il avait non loin de là un ami qui pourrait leur être utile. Il s'étonnait, à la vérité, qu'il ne l'eût pas suivi. Mais, dans le fait, le bonhomme de la colline, au départ de notre héros, s'était assis tranquillement sur le lieu le plus élevé, où, quoiqu'il eût un fusil entre les mains, il attendait avec autant de patience que d'indifférence l'issue de cette aventure. Jones, sortant alors du bois, aperçut le vieillard assis dans la même position. Il se servit alors de toute son agilité et gravit la colline avec une légèreté surprenante. Le vieillard lui conseilla de conduire la dame à Hampton, qu'il lui dit être la ville la plus proche, en ajoutant qu'il pouvait être sûr d'y trouver toutes les choses dont elle pourrait avoir besoin. Jones, après avoir reçu de lui toutes les informations nécessaires sur le chemin qui y conduisait, le quitta, et après l'avoir prié d'indiquer le même chemin à Partridge, retourna promptement au bois. Notre héros, en s'éloignant pour aller demander des renseignements à son ami, s'était bien rendu compte que le scélérat, ayant les mains liées derrière le dos, était hors d'état d'exécuter aucun de ses mauvais desseins sur la pauvre dame. Il avait en outre calculé qu'il ne serait pas hors de la portée de sa voix et pourrait revenir assez tôt pour empêcher un malheur. Il avait de plus déclaré à ce lâche que s'il hasardait la moindre tentative contre elle, il serait lui-même sur le champ l'exécuteur de la vengeance des lois en lui arrachant la vie. Mais Jones oublia malheureusement que si les mains de Northerton étaient attachées, ses jambes étaient en liberté, et il n'avait pas fait au prisonnier la moindre défense d'en faire tel usage qu'il trouverait bon. Northerton, n'ayant donné aucune parole de ce genre, crut qu'il pouvait s'en aller sans manquer à l'honneur. Il se servit donc de ses jambes, qui étaient libres, et s'enfonça dans l'épaisseur du bois qui favorisait sa retraite. La dame, dont les yeux étaient probablement tournés vers son libérateur, ne s'aperçut pas de son évasion, ou ne prit pas la peine de s'y opposer. Jones la trouva donc seule à son retour. Il allait perdre du temps à courir après Northerton, mais elle ne voulut pas le lui permettre, le conjurant avec instance de la conduire à la ville qu'on lui avait indiquée. La fuite de ce malheureux, lui dit-elle, ne m'afflige nullement, car la philosophie et le christianisme prescrivent également le pardon des injures. Mais quant à vous, monsieur, je suis fâché de l'embarras que je vous cause. J'ajouterai même que l'état de nudité où je me trouve me fait rougir et baisser les yeux devant vous, au point que si votre protection ne m'était pas nécessaire, je préférerais me rendre seul à la ville. Jones lui offrit son habit, mais je ne sais pour quelle raison elle se refusa à l'extrême empressement qu'il mit à le lui faire accepter. Il la pria alors d'oublier les deux motifs qui la rendaient si confuse en sa présence. Quant au premier, lui dit-il, je n'ai fait que mon devoir en vous délivrant, et j'écarterai entièrement le second en marchant devant vous pendant toute la route, car je ne voudrais pas que mes regards pussent vous offenser, et je ne répondrai pas que j'eusse le pouvoir de résister à cette tentation. » Notre héros et la dame délivrée par lui se mirent donc en chemin de la même manière qu'Orphée et Eurydice à leur sortie des enfers. Mais quoique je ne puisse croire que Jones fût tenté de regarder derrière lui uniquement pour jouir de la vue de sa belle, cependant, comme elle avait fréquemment besoin de son secours pour la traverse des fossés, comme elle faisait un assez grand nombre de faux pas, etc., etc., il était souvent obligé de se retourner. Quoi qu'il en soit, il eut un sort plus heureux que celui du pauvre Orphée, car il parvint à conduire saine et sauve sa compagne, ou plutôt sa suivante, à la fameuse ville d'Apton. Chapitre 3. Arrivée de M. Jones et de sa dame à l'auberge. Description très détaillée de la bataille d'Apton. Quoique nous ne doutions pas de l'empressement du lecteur à savoir qui était cette dame et comment elle était tombée entre les mains de M. Northerton, nous nous voyons dans la nécessité de le prier de suspendre un moment sa curiosité, attendu que pour de très bonnes raisons qu'il devinera peut-être par la suite, nous sommes obligés de remettre à la satisfaire à une époque un peu plus reculée. M. Jones et sa belle compagne ne furent pas plutôt entrés dans la ville qu'ils allèrent droit à l'auberge qui leur parut présenter la plus belle apparence. Jones, après avoir ordonné à un domestique d'ouvrir une chambre en haut, était en chemin pour y monter quand la belle échevelée qui le suivait précipitamment fut arrêtée par le maître de la maison qui lui cria « Ouais, et où va donc cette fille des rues? Restez en bas, je vous prie !» Mais Jones, au même instant, cria de toutes ses forces du haut de l'escalier « Qu'on laisse monter madame !» et d'un ton si impératif que le bonhomme lâcha prise sur le champ. La dame se hâta de se rendre à sa chambre. Jones, qui y était déjà, la félicita d'être arrivée saine et sauve, et sortit en lui promettant de lui envoyer la maîtresse de la maison avec quelques vêtements. La pauvre femme le remercia mille fois de toutes ses bontés et lui dit qu'elle espérait le revoir bientôt pour le remercier mille fois encore. Pendant cette courte conversation, elle couvrit son beau sein du mieux qu'elle put avec ses bras. Car Jones ne put s'empêcher d'y jeter une fois ou deux un léger coup d'œil, quoiqu'il prît tout le soin imaginable pour ne la point offenser. Nos voyageurs avaient par hasard fixé leur résidence dans une maison extrêmement bien famée, où les dames irlandaises d'une vertu sévère et beaucoup de demoiselles de la même catégorie avaient coutume de s'arrêter en venant du nord de l'Angleterre pour se rendre à Bath. On peut juger si l'hôtesse aurait voulu permettre qu'ils y passât quelque chose qui pût nuire à la bonne réputation dont elle jouissait. En effet, des scènes de cette nature, outre qu'elles sont toujours très désagréables, portent avec elles une espèce de contagion qui infecte les actions les plus innocentes et font donner le titre de mauvais lieu ou de maison mal famée à toutes celles où on les souffre. Non que je veuille insinuer que ce soit une chose possible de maintenir, dans une auberge ouverte à tout le monde, une chasteté aussi sévère que celle que l'on gardait dans le temple de Vesta. La bonne hôtesse n'espérait pas un aussi grand bonheur, et aucune des dames dont j'ai parlé, ni même celle de la vertu la plus rigide, ne l'aurait exigée, et n'aurait osé insister sur une chose pareille. Mais exclure de chez soi la vile débauche, chasser de sa maison toutes les prostituées de la dernière classe, voilà ce qui est au pouvoir de tout le monde. Voilà ce à quoi notre hôtesse tenait avec la plus grande rigueur, et tout ce que les personnes vertueuses de la première classe pouvaient raisonnablement attendre d'elle. Or, sans être extrêmement blâmable, on pouvait soupçonner que M. Jones et sa compagne, dans le désordre où elle était, avaient en vue certains projets qui, quoique tolérés dans quelques pays chrétiens, favorisés dans d'autres et exécutés dans tous, sont cependant aussi expressément défendus que le meurtre ou tout autre crime par la religion universellement reçue dans ces pays. L'hôtesse n'eut donc pas plutôt reçu avis de leur arrivée qu'elle se mit à réfléchir sur les moyens les plus expéditifs de les chasser. Elle s'était pourvue en conséquence d'un long et terrible instrument dont la servante faisait usage en temps de paix pour raser de fond en comble les travaux de l'industrieuse araignée. Pour me servir d'un terme vulgaire, elle s'était emparée du manche à balai, et était au moment de sortir de la cuisine quand Jones l'aborda en lui demandant une robe et d'autres vêtements pour habiller la dame demi-nue qui était dans une chambre en haut. Il n'y a rien qui provoque davantage l'esprit humain et qui soit plus opposé à l'exercice de cette vertu cardinale qu'on nomme la patience que les sollicitations qu'on nous fait de rendre quelques services importants à ceux contre lesquels nous sommes vivement irrités. C'est pour cette raison que Shakespeare introduit habilement sur la scène sa Desdémone, sollicitant la grâce de Cassio auprès de son époux comme un moyen d'enflammer non seulement sa jalousie, mais encore sa rage, jusqu'au plus haut point de démence. Aussi voyons-nous le malheureux mort moins capable de commander à sa passion dans cette circonstance qu'au moment où il voit de ses propres yeux, entre les mains de son rival supposé, le présent inestimable qu'il avait fait à sa femme. La vérité est que nous regardons ces sollicitations comme des insultes faites à notre bon sens, et l'orgueil de l'homme s'en indigne. L'hôtesse, quoique fort bonne femme d'ailleurs, avait, je le suppose, un peu de cet orgueil dans le caractère, car Jones eut à peine terminé sa requête qu'elle tomba sur lui avec une certaine arme qui, quoiqu'elle ne soit ni longue, ni dure, ni pointue, quoique son extérieur n'annonce pas qu'elle soit capable de donner la mort, ni même de faire la moindre blessure, a cependant inspiré autant de crainte que d'horreur à une foule de gens sages et même courageux qui ont été moins effrayés de la bouche d'un canon chargé que de celle où cette arme était renfermée. Et plutôt que de s'exposer à ses ravages, se sont résignés à faire la plus pitoyable et la plus triste figure dans le monde. S'il faut dire la vérité, je crains bien que M. Jones ne fût du nombre de ces derniers, car bien qu'il fût attaqué et violemment frappé avec la susdite arme, il n'osa faire la moindre résistance. Il conjura au contraire son antagoniste de la manière la plus lâche et à plusieurs reprises de mettre enfin un terme à ses injures. En bon anglais, il se borna à la prier avec la plus grande chaleur de vouloir bien l'écouter. Mais avant qu'il eût pu obtenir une réponse favorable à sa requête, l'hôte lui-même entra dans la querelle et embrassa le parti qui avait le moins besoin de son secours. Il y a une sorte de héros qui se détermine à chercher ou à fuir le combat d'après le caractère et la conduite de leurs adversaires. Cela s'appelle connaître son homme. Et Jones, je le présume, connaissait sa femme, car bien qu'il eût été si humble et si respectueux devant elle, il ne fut pas plutôt attaqué par son mari qu'il se mit dans une grande colère et lui enjoignit de garder le silence, sous les peines les plus sévères. Il ne s'agissait de rien moins, autant que je peux m'en souvenir, que de le traiter comme une bûche en le jetant dans son propre feu. Le mari lui répondit avec beaucoup d'indignation, mais avec un mélange de pitié. « Il vous faudrait d'abord demander au ciel la grâce d'en être capable. Je crois que je vaux mieux que vous. Oui, je vaux mieux que vous à tous égards. » Puis il se mit à prodiguer les injures les plus grossières à la dame qui était dans la chambre d'en haut. À peine les eut-il proférées qu'un coup bien asséné du bâton que Jones avait à la main le frappa rudement sur les épaules. Il reste encore à savoir lequel de l'hôte ou de l'hôtesse fut le plus prompt à rendre le coup. L'hôte, dont les mains étaient vides, tomba sur son adversaire avec son poing, tandis que la bonne femme, levant son balai en l'air et visant à la tête de Jones, se préparait à mettre promptement fin au combat et à Jones lui-même, si la descente du dit balai sur sa tête n'eût été suspendue non par l'intervention d'aucune divinité païenne, mais par un accident très naturel, quoique très heureux, je veux dire l'arrivée de Partridge, qui entra au moment même, car la peur l'avait fait courir sans s'arrêter depuis la colline, et qui, voyant le danger dont son maître ou son compagnon, comme il vous plaira, était menacé, prévint une si triste catastrophe en saisissant le bras de l'hôtesse et le retenant en l'air à l'instant où il était à sa plus grande élévation. L'hôtesse aperçut bientôt l'obstacle qui empêchait la chute du coup qu'elle avait médité, et n'étant pas de force à retirer son bras des mains de Partridge, elle laissa aller le balai. Et abandonnant Jones à la discrétion de son mari, elle tomba en furie sur le pauvre garçon qui s'était déjà fait assez connaître en criant « Palsambleu, voulez-vous donc tuer mon ami ?» Partridge, quoiqu'en général très peu porté au combat, ne voulut pas demeurer les bras croisés pendant que son ami était attaqué. Il ne fut pas non plus extrêmement fâché de la part qui lui était échue. Il rendit donc à l'hôtesse tous les coups qu'il en recevait. Le combat se soutenait avec la plus grande opiniâtreté des deux parts, et il semblait encore douteux de quel côté la fortune se rangerait, quand la dame demi-nue, qui du haut de l'escalier avait écouté le dialogue précurseur du premier engagement, descendit, et, sans calculer l'injuste inégalité de 2-1, tomba sur la pauvre femme qui se battait à coups de poing avec Partridge. Ce brave champion ne quitta pas pour cela la bataille, au contraire. Il redoubla ses coups avec plus de furie quand il vit les troupes fraîches arriver à son secours. La victoire était alors sur le point de pencher pour les voyageurs, car les troupes les plus braves sont obligées de céder au nombre. Si Suzanne, la servante, ne fut venue heureusement pour soutenir sa maîtresse. Cette Suzanne était une fille qui se servait aussi habilement de ses deux mains qu'aucune autre fille du pays, et aurait, je crois, battu la fameuse Thalestris elle-même, ou toute autre amazone de ses sujettes, car ses formes étaient robustes, masculines, et taillées en tout pour ces sortes de combats. De même que ses mains et ses bras avaient reçu le don de pouvoir porter à un ennemi les coups les plus dangereux, son visage possédait celui de pouvoir en recevoir sans un grand inconvénient pour elle, son nez étant si plat qu'on ne pouvait l'apercevoir de profil, et ses lèvres si grosses qu'il leur eût été difficile d'enfler en aucun cas. Elles étaient d'ailleurs si fermes que le coup de poing le plus vigoureux pouvait à peine y faire la moindre impression. Enfin, les os de ses joues formaient 2 éminences que la nature semblait avoir placées sur son visage, comme 2 bastions pour défendre ses yeux dans ces sortes de combats pour lesquels elle était si bien conformée, et avait eu de tout temps un goût prodigieux. Cette belle créature n'eut pas plutôt mis le pied sur le champ de bataille qu'elle défila vers l'aile de l'armée où sa maîtresse soutenait un combat si inégal avec l'un et l'autre sexe. Elle appela aussitôt Partridge à un combat singulier, il accepta le défi, et l'action la plus terrible s'engagea entre eux. Les chiens de Bellone, une fois lâchés, se repaissaient d'avance de leur prochaine curée. La victoire aux ailes dorées planait au milieu des airs. La fortune du haut de sa roue, prononcée balance, se mit à peser les destinées de Tom Jones, de sa compagne et de Partridge, avec celles de l'hôte, de l'hôtesse et de la servante. Les 2 plateaux se soutenaient dans la plus parfaite égalité, quand un incident fort heureux vint mettre fin sur le champ à cet appétit sanguinaire que la moitié des combattants avaient déjà suffisamment rassasié. Ce fut l'arrivée d'un carrosse à 4 chevaux, à la vue duquel l'hôte et l'hôtesse abandonnèrent le combat et obtinrent, par leurs prières, la même faveur de leurs antagonistes. Mais Suzanne n'eut pas la même bonté pour Partridge, car cette belle amazone, après avoir terrassé son ennemi et s'être mise à cheval sur lui, le souffletait vigoureusement des 2 mains, sans avoir égard à la demande qu'il lui faisait d'une cessation d'armes, et quoiqu'il criât au meurtre de toutes ses forces. Cependant, Jones n'eut pas plutôt quitté l'hôte qu'il courut au secours de son compagnon, que l'enragée servante ne cessait d'accabler de coups. Il eut beaucoup de peine à l'arracher de ses mains. Mais Partridge ne s'aperçut pas sur le champ de sa délivrance, car il resta étendu de tout son long sur le carreau, garantissant son visage avec ses mains, et ne cessa ses beuglements que lorsque Jones l'eut forcé de lever les yeux et de se convaincre que le combat était bien réellement fini. L'hôte, qui n'avait pas de blessure apparente, et l'hôtesse, cachant avec son mouchoir son visage couvert d'égratignures, coururent tous 2 promptement à la porte pour recevoir honorablement la voiture dont une jeune dame et sa femme de chambre descendaient. L'hôtesse les fit monter aussitôt dans la chambre où M. Jones avait d'abord déposé sa belle conquête, attendu que c'était le plus bel appartement de la maison. Elles furent obligées de passer pour s'y rendre à travers le champ de bataille, ce qu'elles firent avec la plus grande précipitation, se couvrant le visage de leur mouchoir comme pour éviter d'être reconnues. Mais dans le fait, leur précaution était parfaitement inutile, car la pauvre malheureuse Hélène, qui avait été la cause de tout le sang répandu, était entièrement occupée à cacher elle-même son visage du mieux qu'elle pouvait. Et Jones ne l'était pas moins à sauver Partridge de la fureur de Suzanne. Ce à quoi il n'eut pas plutôt réussi que le pauvre garçon courut à la pompe pour se laver et arrêter le torrent de sang que Suzanne avait fait couler de son nez.